De dire que tous les auteurs des attentats de Bombay sont pakistanais, ça c'est vraiment de l'intox, ce n'est pas de l'information. On ne peut pas imaginer qu'un groupe entièrement étranger ait pu organiser ces attentats. De même, on ne peut pas imaginer non plus qu'un groupe purement local, tout seul, ait pu. Donc c'est une collaboration entre les deux. Et puis on est à Bombay, il ne faut quand même pas oublier que la mafia de Bombay a joué un rôle dans les attentats, notamment les plus importants à Bombay, ceux de 1993, bon, qui est très utile aussi pour avoir des soutiens locaux et pour obtenir des armes localement. Donc le gouvernement indien ne peut pas être dans un déni face aux problèmes de l'extrémisme hindou et de l'extrémisme musulman qui se nourrissent mutuellement. Et quand même, il y a en Inde une discrimination institutionnalisée contre les minorités et particulièrement contre les musulmans.
Quelles sont donc toutes les implications de ces attentats ?
Il y a beaucoup de gens dans la région qui ne veulent pas que la normalisation entre l'Inde et le Pakistan se poursuive. Beaucoup aussi qui sont très inquiets de la coopération dans le nucléaire civil entre l'Inde et les États-Unis. Maintenant, il y a aussi le facteur afghan et les très bonnes relations que l'Inde entretient avec le gouvernement de Hamid Karzai et la présence indienne en Afghanistan qui est très visible.
De quel œil les réseaux d'Al-Qaïda dans la région voient-ils ces attentats ?
Pour Al-Qaïda et pour les talibans pakistanais, l'attentat de Bombay permet de créer une diversion à un moment où ils sont quand même soumis d'une part à toute l'offensive qu'a lancée l'armée pakistanaise dans les zones tribales du nord et qui semble avoir porté un coup sérieux aux éléments d'Al-Qaïda et à ceux qui les soutiennent, et puis aussi les tirs de missiles américains dans les zones tribales.
Quel est le rôle maintenant des États-Unis dans la région ?
Le problème maintenant pour les États-Unis, c'est de faire retomber la tension entre l'Inde et le Pakistan. Et l'Inde et le Pakistan sont tous les deux en train d'essayer d'avoir les États-Unis de leur côté. Parce que c'est tout à fait important. L'armée pakistanaise, bien sûr, a des moyens de pression sur les États-Unis. Si l'Inde déploie des troupes à la frontière, l'armée pakistanaise peut dire, eh bien, très bien, les 100 000 hommes que nous avons déployés le long de la frontière afghane, nous allons les déplacer à notre frontière indienne, ce qui mettra l'opération américaine en Afghanistan en difficulté. Les Américains ont besoin du soutien de l'armée pakistanaise tant qu'ils seront présents en Afghanistan, et ils ont aussi besoin du Pakistan pour faire transiter tout le ravitaillement pour les troupes.
Est-ce que l'Inde et le Pakistan vont réussir à travailler main dans la main pour résoudre le mystère qui plane encore au-dessus de ces attentats ?
Il y a quand même au sein de l'armée pakistanaise de nombreux éléments qui, eux, continuent à penser jusqu'à aujourd'hui que la principale menace pour le Pakistan, c'est l'Inde. Et évidemment, tous ces bruits de bottes en Inde ne font que les renforcer. Ils se voient pris en tenaille entre l'Inde et l'Afghanistan, un Afghanistan où la présence indienne est visible, un gouvernement afghan qui entretient de très bonnes relations avec l'Inde. Donc tout cela ne fait que renforcer leur perception du danger indien comme étant plus important que le danger constitué par les groupes extrémistes locaux au Pakistan qui, depuis 2003 et surtout depuis l'assaut contre la Mosquée Rouge en juillet 2007, se sont maintenant retournés contre l'armée pakistanaise et mènent une série d'attentats suicides ciblés contre l'armée, les forces paramilitaires et la police.